Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Mère vous fasse loisir. Des conseils pour votre congé de fin de semaine, culture, cuisine, jardinage, déco, activité physique, pour passer le meilleur week-end possible. Nous recevons ce matin le chef Yves Candebordes et Marcel Ratafia, les co-auteurs d'un livre consacré aux expressions de la cuisine, comme faire son beurre, être dans la panade, faire l'andouille, les carottes sont cuites, tomber sur un os, ou l'une de mes préférées, se mettre la rate au courbouillon. Notre chef Grégory Cohen vous proposera une recette gourmande pour le petit déjeuner ou le goûter. La journaliste Christine Ferniaud vous proposera des livres de cuisine pour ensoleiller vos fourneaux. Enfin, le journaliste Julien Bisson vous conseillera un film d'animation à regarder en famille. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Qui n'est jamais le dindon de la farce. Vous nous proposez ce matin une petite philo du bistrot.
Oui, parce qu'entre philosophie de comptoir et café philo, une question, peut-on philosopher donc dans ces bistrots?
Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Qui ne compte pas pour des prunes. Votre chronique, c'est l'ami du vendredi et vous avez choisi cette semaine Babette, l'héroïne d'une nouvelle de la Danoise Karen Blixen.
Oui, j'ai choisi une femme, une chef qui fait la cuisine et en fait elle réchauffe les cœurs, elle ouvre l'âme. Et en ce moment, comment vous dire, c'est utile, non?
Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
Qui n'a pas d'oursin dans ses poches
non,
et
jamais.
Qui ne supporte pas que je la vous voie pendant sa chronique.
Encore moins.
Grâce à toi, on ne va pas passer à la casserole en fin d'émission. Hein.
Non, je crois pas. Je crois qu'on n'a plus très envie et qu'il est temps de changer de recette.
Bienvenue dans Grand Mère vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Yves Candebordes.
Bonjour.
Chef de file de la cuisine de bistrot, dite bistronomique. Bonjour Marcel Ratafia.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions Le Robert 150 drôles d'expressions de la cuisine qui ne manquent pas de sel. Alors tout au long de la journée, nos conversations, nos échanges sont gorgés de mots issus de la cuisine. Hein.
Oui, tout à fait. Et moi, je suis spécialiste de l'argot. Et en fait, il y a à la fois beaucoup de cuisine, beaucoup de bectance et beaucoup d'argot dans tout ce qu'on peut se dire sur des sujets qui n'ont parfois rien à voir, comme les carottes sont cuites, par exemple.
Yves Candebordes, sur ces mots de la cuisine qui nous accompagnent tout au long de la journée.
Moi, il m'accompagne dans mon quotidien. Et par contre, Marcel, je t'assure que les carottes, faut que ça coûte parce que sinon, c'est pas bon. C'est pas bon quand c'est croquant.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rébéi.
Qui est encore de beau reste, chef du restaurant.
Ils ont posé une super expression, peut-être à part celle de Maya.
Il va faire toute l'émission à base d'expression. De
mais non, Maya n'a pas d'oursin dans sa poche. Elle est très généreuse, justement.
Voilà.
Grégory Cohen, chef du restaurant éphémère Temporalité à Paris jusqu'au 11 décembre. Vous nous proposez ce matin une douceur pourtant anxiogène.
Le pain de gêne?
Ben oui.
Mais non, le pain, parce que quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir.
Oh,
donc il faut se faire plaisir avec cette petite recette. C'est un pain de gêne aux clémentines. Ouais. Alors le pain de gêne, ça s'appelle aussi l'ambroisie. C'est un peu plus romantique comme nom. Et c'est très léger, très facile à faire. Et franchement, vous allez voir, ça va bien se passer, Ali.
Tiens, Grégory, vous faites le malin. Rudy vous demande comment réussir une chantilly à coup sûr.
Alors la chantilly, en fait, pour la réussir à coup sûr, il y a trois facteurs qu'il faut connaître et qui sont très très simples. Un, il faut du froid. Deux, il faut du gras. Et trois, il faut de l'air. Alors en fait, il faut prendre une crème liquide, 35% de matière grasse idéalement. Si on essaie avec une crème liquide light, ça ne marchera pas puisqu'il n'y a pas de gras.
Mm-hmm.
Et en fait, en foisonnant, c'est-à-dire en faisant tourner son fouet, on va rajouter de l'air dedans, donc de l'air dans les capsules de gras. Et puis, avec le froid, ça va se figer. Vous avez d'autres petits pièges comme ça, Ali? Parce que je vous sens taquin, là. Vous m'avez attaqué direct.
Yves Candebordes, comment sublimer une chantilly?
Moi, j'y mettrai quand même un peu de sucre parce que quand même, il faut quand même un peu de goût. Et puis de la vanille, c'est très classique. Ouais. Enfin, juste une vanille ouverte en deux, on récupère les grains et surtout on la fait à la main. Mm. Le désastre aujourd'hui de l'évolution technique de nos métiers, c'est les machines. Mm. C'est comme la mayonnaise, la chantilly, quand on la fait à la main, ça a un goût totalement différent parce que là on respecte la fibre, la texture de la crème et on a quelque chose qui est pratiquement croquant plutôt que d'avoir quelque chose de lisse.
Grégory?
Oui, alors on peut avec sa main aussi appuyer sur un petit bouton et régler la vitesse de son batteur. Et puis surveiller.
C'est le malheur. C'est le malheur du goût.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef du 1 Hebdo, pilier de bistrot à ses heures perdues. Dans un instant, il sera question d'un film d'animation actuellement en salle. Hein.
Oui, Le Peuple Loup, on vous emmènera en Irlande, dans le fond des forêts irlandaises.
Bonjour Christine Ferniaud.
Bonjour Ali.
Journaliste à Télérama, alias Princesse Christine, la marraine de mon premier pilote radio il y a bien longtemps.
Que d'émotions.
Hein, voilà. Et on commence avec vous, tiens. Christine Ferniaud, coup de cœur ce matin pour un livre de Stéphanie Schwarzbrod, La cuisine de l'exil, et c'est publié chez Actes Sud.
Et c'est à la fois un livre de cuisine, des récits, de la grande histoire, de la petite histoire. On traverse le siècle avec Stéphanie Schwarzbrod. Elle a été voir des gens qui sont donc des exilés, mais elle a connu à la fois des gens qui sont des exilés depuis le début du XXe siècle, c'est-à-dire elle commence avec des gens qui étaient en 1924 en URSS, qui ont traversé le monde et qui ont emporté avec eux leurs recettes. Et elle termine en 2017 en Côte d'Ivoire. Avec un mafé au bœuf qui rappelle des tas de souvenirs à son héros du quotidien. Et c'est vraiment très beau parce que ce siècle-là, c'est donc beaucoup d'histoires, c'est beaucoup de continents, c'est beaucoup de recettes, et ça montre à quel point l'exil peut se devenir un peu plus modeste, un peu plus petit, dès qu'il s'agit de cuisine, de rappeler un parfum, de rappeler un goût, de rappeler une idée. Et lorsque une mère envoie à son fils à l'autre bout du monde quelques ingrédients pour faire ce fameux mafé dont je parlais de Côte d'Ivoire, et bien d'un seul coup, ce garçon, dans sa chambre minuscule, plutôt maltraité par ses voisins, retrouve un petit peu d'espoir et de vie. C'est un livre merveilleusement écrit par Stéphanie Schwarzbrod, qui est à la fois une écrivaine et une gourmande. Et c'est un livre plein de sentiments, plein d'émotions, plein de beauté, et qui nous réconcilie avec le monde entier, et surtout qui nous fait oublier à quel point nous sommes méprisants pour les migrants.
Grégory Cohen, sur cette cuisine de l'exil.
C'est une cuisine qui nous ramène à nos racines. En fait, on est tous plus ou moins exilés. Hein. Si on remonte un petit peu sur quelques générations, on n'était pas tous forcément issus de France, et même dans l'absolu, du territoire. Et même dans l'absolu, si on va même un petit peu plus loin sur cette cuisine des exilés, il y a aussi la cuisine des terroirs. On considère parfois que il y a des gens qui sont des exilés de leur terroir et qui ramènent cette cuisine chez eux. Yves en est la preuve vivante.
Ouais, mais je pense que c'est surtout le sentiment que peut apporter le moment où on se retrouve. Alors, j'ai parlé de mon histoire personnelle, j'ai quitté mon Béarn natal en 1980 et je suis monté à Paris tout seul dans une chambre de bonne, et avec le cafard bien sûr de plus voir mes chers Pyrénées. Mais les moments où je retrouvais le moral, ou le moment où je m'accrochais, c'est quand j'ouvrais une boîte de pâté, quand j'ouvrais un pot de confiture papa et maman m'avaient donné. Je me retrouvais dans une petite chambre de bonne de 10 mètres carrés en train de déguster à la cuillère directement la confiture comme repas, et c'était une émotion assez exceptionnelle, et j'avais le moral, quoi. C'est grâce à ça que j'ai tenu. Et c'est vrai que ce sentiment, ce souvenir du goût, ce souvenir de voir la personne qui l'a faite, et qui vous l'a offert, vous êtes arrivé à Paris avec, et vous remangez toute cette histoire gastronomique d'une famille, c'est des choses très importantes et qui ont un sens réel pour un jeune garçon qui se retrouve exilé dans un autre pays ou dans une autre région.
Grégory Cohen.
Oui, il y a aussi cette notion de transmission aussi, parce que il y a cette notion de souvenir et de qui va nous rassurer et qui va nous ramener à nos origines, à ce qu'on a aimé, à ce qu'on vivait avant, et on se retrouve après à faire vivre notre cuisine française, parce que justement toutes ces inspirations vont infuser dans notre cuisine, et on va retrouver maintenant certaines épices qu'on retrouvait pas. Le razel hanout, qui est devenu une épice que maintenant tout le monde utilise, mais qui a été amené par ces exilés justement qui nous ont apporté ça. Le curry qu'on retrouve aussi, et tout ça crée le fait que cette cuisine française est vivante et qu'elle se nourrit justement de tous les apports des autres.
Guy Métodicino.
C'est très beau. En fait, on part donc d'une notion vraiment qui est follement familiale. Enfin, les racines, les origines, le chagrin peut-être d'en être séparé. Et comme le dit Grégory, on aboutit à quoi après ? On aboutit en fait au mélange. On aboutit au partage, et on aboutit au mélange aussi par le biais du goût et des saveurs. Et tout ça donne en fait à la fois dans les plats et dans le monde, hein, peut-être une vision un petit peu plus ouverte de l'humanité, en fait, plus pimentée aussi, moins triste.
Yves Condebord.
Ouais, moi, je pense, par rapport à la gastronomie française, c'est sans doute encore pour ça qu'elle est la plus belle du monde encore aujourd'hui, parce qu'elle a cette facilité à se mixer avec des saveurs qui nous arrivent du monde entier. Alors, on va prendre la tomate, on va prendre le piment, on va prendre les patates, alors plus proche de nous, le gingembre, la citronnelle, qui sont devenus aujourd'hui des fondations de la gastronomie française. Et c'est pour ça qu'on arrive, à avoir une évolution permanente grâce à cette cuisine qui nous vient d'ailleurs.
La cuisine de l'exil de Stéphanie Schwarzbrod, c'est publié chez Actes Sud. Second livre pour ensoleiller notre cuisine, Christine Ferniaud, Marseille, cuisine le monde de Vérane Frediani, et c'est publié à La Martinière.
Alors Vérane Frediani est marseillaise. Tout le monde veut habiter Marseille aujourd'hui, tout le monde veut y être, mais elle est vraiment marseillaise. Et elle a été chercher 75 recettes, mais elle a fait surtout 60 portraits de gens qui ont du caractère, de la force. Et elle a fait les photos de ces gens et on voit qu'elle est allée les voir chez eux parce que il y a souvent des mères avec les fils qui sont là à faire la cuisine. Et elle montre cette richesse culinaire qui, elle aussi, comme on le disait tout à l'heure, c'est une richesse qui vient de partout. Elle est diverse, elle a un concentré de couleurs, de saveurs. C'est beaucoup les mères, c'est beaucoup les femmes qui sont cuisinières. C'est une lettre d'amour à la pizza parce que... Voilà, Pise, à Marseille, il y en a partout.
Le camion de pizza marseillais. Hein.
Exactement, et c'est d'abord le camion, mais
c'est
pas n'importe quel camion.
C'est la bonne prononciation, c'est la Pise.
La Pise. Ouais. Et puis le couscous, et puis on met de l'ail partout, et puis on fait des pieds paquets. Les pieds paquets, quand même, au départ, c'est pas hyper tentant. Hein. Yves Candebord, c'est pas... Il faut savoir les préparer. À Marseille, on les prépare.
Ouais, il faut savoir les préparer, parce que c'est des recettes traditionnelles, mais c'est des recettes typiquement du sud-est de Marseille. Ça a du goût, ça a de la puissance, mais ça ressemble à Marseille. Quand on arrive là-bas, oui. Ça crie, ça bouge, ça se mélange. Et la cuisine marseillaise, c'est exactement ça. C'est ce mélange d'horizons différents avec des très très forts caractères qui peuvent être parfois un peu insupportables aussi. Hein.
Mais c'est
un peu trop assaisonné.
C'est ça qui est très bien aussi. Puis avec elle, on se promène à la fois du côté de Noailles, qui est un quartier aussi très très mélangé. On peut aller au Goud. On va aller se mettre à l'Esplaille pour aller manger la bouillabaisse, mais le poisson le plus frais possible. Et puis on fait de la cueillette urbaine aussi dans les hauteurs de Marseille. C'est plein d'amour, c'est plein de diversité, c'est remarquablement photographié, c'est plein d'émotions et vraiment, on est dans le Marseille le vrai, c'est-à-dire que là, la prochaine fois que vous irez à Marseille, vous saurez à quel camion de pizza vous allez manger la pizza.
Marseille cuisine le monde de Vérane Frediani, c'est publié à La Martinière. Julien Bisson, ce week-end, vous nous conseillez un film d'animation à voir en famille, actuellement en salle, ça s'appelle « Le peuple loup » de Tom Moore et Ross Stewart.
Oui, et là, on va plutôt dans le folklore irlandais. La gastronomie, c'est un peu différent en Irlande. On est plutôt dans la gastronomie liquide. Bienvenue donc à Kilkenny, en Irlande, en 1650, où vient d'arriver avec son père la jeune Robin Goodfellow. Elle a 11 ans, les cheveux blonds et le caractère bien trempé. Mais ce dont rêve cette Robin des bois d'un autre genre, c'est de pouvoir imiter son chasseur de père, de lui prouver sa valeur en tirant les loups avec son arbalète et son faucon Merlin. Mais lorsqu'elle se fait prendre dans un piège et qu'une de ses louves vient justement la libérer en mordant la corde, eh bien Robin va découvrir l'existence des Wolf Walkers, des êtres capables de se changer en loup durant leur sommeil. Et la morsure accidentelle qu'elle reçoit de cette louve va la transformer elle-même en Wolf Walker, pourchassée par les habitants du village et par son père en particulier. Alors Le Peuple Loup, c'est l'un de ces films d'animation qu'on a envie de voir et revoir sans jamais se lasser. Une espèce d'aventure enchanteresse matinée de fantaisie dont l'allure graphique rappelle d'ailleurs autant les gravures de Klimt que les productions de Miyazaki, Princesse Mononoke en particulier. C'est beau comme une légende celte tirée du fond des âges, mais une légende celte dont la philosophie resterait terriblement actuelle. Parce que, comme bien souvent, les fauves ne sont pas vraiment ceux que l'on croit. Et le loup n'est ici rien d'autre que l'instrument du pouvoir pour désigner l'ennemi et justifier sa férule. Alors aux aplats anguleux de la ville répond la rondeur et la profondeur de cette forêt qu'on cherche à détruire à défaut de pouvoir la soumettre. C'est un film qui part de la chasse quand elle prend le goût du sang, la chasse quand elle ne régule rien d'autre que l'envie de tuer des hommes. Et au moment où la forêt brûle, il n'y a bien que les loups pour s'en préoccuper. Alors, on loue généralement et souvent à raison jusque dans cette émission les grands films d'animation américains ou japonais, mais Le Peuple Loup, ça vient nous rappeler aussi l'extraordinaire qualité des studios européens aujourd'hui. Le film, c'est ici une coproduction entre l'Irlande, la France et le Luxembourg. Alors, je vous propose de profiter de l'automne, de plonger dans la forêt. Et puis, en plongeant dans la forêt, là-bas comme ailleurs, ne succombez pas à la peur du grand méchant loup.
Guillemette.
Ah mais c'est une pure merveille. C'est vraiment c'est l'un de ces joyaux qui arrive comme ça sur les écrans et je suis très contente que Julien en parle parce que évidemment le bouche à oreille mais le bouche à oreille ça ne suffit pas. Allez-y vraiment parce que vous allez être mais c'est de la magnificence. C'est à la fois d'un humanisme, d'une écologie folle et d'une beauté. Mais c'est vraiment, mais c'est toutes les couleurs de l'automne et de la nature, c'est magnifique.
Le film d'animation qui fait du bien à voir ce week-end, c'est Le Peuple Loup de Tom Moore et Ross Stewart. Vous retrouverez tous les conseils sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Allez, il est déjà l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Odissino, qui mérite notre amitié cette semaine?
Alors, vous avez vendu la mèche tout à l'heure, puisque vous avez dit effectivement que c'est Babette. Moi, je voulais vous dire que c'était une amie qui ne comptait pas pour du beurre. Je voulais vous dire que peut-être vous alliez donner votre langue au chat. Bon, tout ça, c'est mort, puisque vous savez qui c'est. Mais tout de même... J'aimerais passer d'abord un petit extrait pour vous présenter ma si bienfaisante amie.
Un jour à Paris, j'ai remporté un grand concours hippique. Et pour célébrer ma victoire, les officiers de la cavalerie française ont décidé de m'inviter dans un des plus chics restaurants, le café anglais. Et le cuisinier en chef, chose surprenante, était une femme. On nous servit des cailles en sarcophage. Le général Gallifet, qui avait lancé l'invitation, nous fit la confidence que cette cuisinière, ce chef, était capable de transformer un repas en une sorte de liaison amoureuse. Une relation si passionnée qu'on se prend à constater que l'appétit physique ne diffère en rien de l'appétit spirituel.
Et oui, cet homme qui trouve si surprenant qu'une femme soit chef est donc en train de décrire Babette. Alors l'héroïne du magnifique film de Gabriel Axel avec Stéphane Audran, mais avant tout l'héroïne de Karen Blixell et de son conte Le Dîner de Babette. Un conte qui commence par raconter les années qui précèdent l'arrivée de mon amie chez deux sœurs très austères dans un petit village luthérien sur une île de Norvège. Et puis donc, Babette débarque. Par une nuit pluvieuse du mois de juin 1871, elle tire à trois reprises avec violence le cordon de sonnette de la maison jaune des deux vieilles filles. Elles ouvrent la porte pour découvrir cette femme massive, d'une pâleur mortelle, qui porte un simple baluchon et leur tend une lettre de recommandation, dont je vous lis un passage. La porteuse de cette lettre, Madame Babette Hersan, a dû s'enfuir de Paris. La guerre civile a fait rage dans nos rues. Les nobles communards, qui se sont dressés pour défendre les droits de l'homme, ont été écrasés et détruits. Madame Hersan a été arrêtée comme pétroleuse et a échappé de justesse aux mains sanglantes du général de Califé. Elle a perdu tout ce qu'elle possédait et n'ose plus rester en France. Alors pendant 12 ans, Babette va devenir gouvernante des deux sœurs. Mais comme, de temps en temps, tout de même, les femmes qui ont su tenir contre l'adversité peuvent avoir 2 secondes de chance, elles gagnent à la loterie. Et là, avec cet argent, que fait mon amie? Elle décide d'offrir à la petite communauté le festin de sa vie. Quand les deux sœurs rechignent, Babette se dresse devant elle avec une énergie si impressionnante que les deux bigotes l'imaginent, lors de la commune, en train de planter le drapeau rouge sur une barricade. Le plaisir, c'est vrai, reste révolutionnaire. Surtout quand des imprécateurs aiment se repaître de tout ce qui a goût amer. Dans le conte, cette phrase sonne si bien. Rappelons-nous que la langue, cette partie du corps si petite, se glorifie d'accomplir de grandes choses. Nul homme ne peut discipliner sa langue. C'est un démon insoumis qui peut distiller un poison mortel. Alors Babette, elle, va nettoyer les langues de leur dégoût pour le monde et les faire jouir avec des saveurs qui vont bouleverser leur vision. Ce dîner sera un moment de grâce où les gens s'aimeront à nouveau. Car rien d'acide, rien d'aigre, ni de rance ne leur a été servi.
Alors votre amie Babette a dépensé tout son argent dans ce repas et elle décide de rester sur la petite île au lieu de repartir à Paris?
Mais oui, elle est à nouveau sans le sou, n'a plus les moyens de repartir, mais elle s'en fiche comme de sa première sauce anglaise. D'après elle, elle ne sera jamais pauvre, puisqu'elle est une grande artiste. à laquelle le plus beau des trésors a été accordé. Rendre les gens heureux. Réchauffer leur corps et leur esprit dans un moment de partage. Si j'aime Babette, c'est pour cette volonté tranquille de faire le bien dans un monde triste. De faire sa commune à elle, en plantant un drapeau libertaire au milieu d'un sombre décor passéiste. Karen Blixell en fait la description parfaite, presque la description d'une figure politique. Son maintien paisible, son regard ferme et profond, exerçait une influence magnétique. Sous ses yeux, les choses prenaient sans bruit leur vraie place. Alors que d'autres font un sale bruit, à la mauvaise place, avec des recettes qui donnent la nausée.
L'ami du vendredi a podcasté sur l'appli France Inter et sur l'appli Radio France. Et vous pouvez lire Le Festin de Babette et autres contes de Karen Blixen en poche chez Folio. Tout au long de la semaine, Grand Main vous fasse a été préparé par Alexia Rivière, Camille Poux, Jalaguier, avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation a été signée Claire Destacan, la programmation musicale Valentine Chedebois. À la technique ce matin, le duo rieur Elisabeth Collet et Anne-Laure Cochet. Et ce matin, Pierre Faucillon. Dans un instant, on se régale d'expression de la cuisine avec Yves Candebord et Marcel Ratafia. Et on écoute Madonna, Hung Up et Guillemette Odissino, prête à monter sur la table.
Mais bien sûr.
Madonna, Hung Up.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi sur France Inter.
Grand bien vous fasse, loisir. Et ce matin, on s'intéresse aux expressions issues de la cuisine et qui irriguent nos conversations.
On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.
Non,
on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs.
Mais ça n'est pas à un homme comme Septime que nous allons apprendre qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs.
Moi, c'est pas croyable. Je suis dans le potage. Depuis le début, on ne me dit rien.
Les deux poussons que vous êtes, je vais les envoyer au saloir. Des clépinettes que je vais en faire. Du bousin de la Noël. Du pâté de tête.
Ils sont thermostats vite.
Mais vous laissez pas avoir. À tous les coups, c'est du flan.
Quelqu'un a essayé de m'accrocher une casserole aux fesses, c'est vilain.
Très vilain, monsieur.
Mais c'est pas possible de faire un flan pareil pour un malheureux greffier.
Ceux qui survivent sont des durs à cuire.
J'aime me beurrer la biscotte.
Oh, vous, évidemment.
Comment, moi?
Bah, je veux dire qu'à votre âge, les carottes sont cuites, tandis que les miennes sont pas encore épluchées.
Ouais.
Bon, on va pour en faire un fromage. Je m'en suis sorti sans problème.
Montage signé Claire Destacan, Yves Candebordes, Marcel Ratafia. Je vous rappelle que vous publiez donc 150 expressions de la cuisine qui ne manquent pas de sel. Alors, j'ai choisi quelques expressions. L'une de mes préférées, se mettre la rate au courbouillon, que j'utilise négativement au bureau. On ne va pas se mettre la rate au courbouillon. Vous l'aimez bien également, hein, Christine Fernieu, cette expression.
Moi, dès qu'il s'agit des bas morceaux, je suis contente.
Marcel Ratafia, elle vient d'où cette expression ?
Des produits tripiers, évidemment. Ouais, ouais. En fait, la rate, elle était responsable au Moyen-Âge de la production de ce qu'on appelait la bile noire, qui est la mélancolie. Et en fait, l'idée, c'était avant tout, de, dans les moments difficiles, de se désopiler la rate. Et en fait, San Antonio, avec son génie habituel, en a fait un titre de livre. Il a inventé l'expression, il l'a forgée quelque part, se mettre la rate au courbouillon. Et en fait, j'ai cherché, est-ce qu'on cuisine la rate ? Peu, vraiment pas beaucoup, mais j'ai trouvé des sites internet de boucher où on pouvait trouver de la rate de bœuf, hein, donc pourquoi pas.
Yves Candebordes, la rate fait partie donc des abats, ça revient au goût du jour, les abats ?
Alors les abats reviennent au goût du jour, la rate ne revient pas au goût du jour.
Pourquoi ?
Et c'est tant mieux.
Pourquoi ?
Non, c'est pas bon. Non, ce qui est dans cette expression-là, là, parce que moi j'ai accompagné Marcel qui a donné les origines exactes des expressions, et moi je me suis amusé à essayer de les analyser. Ce qui est bien dans cette expression-là, c'est le courbouillon. Voilà. On a ce courbouillon du pot-au-feu qui est une tradition française qui fait partie de nos bases. L'expression par rapport au courbouillon, elle a un vrai sens, parce que qu'est-ce que c'est bon le courbouillon ?
Comment on réussit son courbouillon, Yves Candebordes ?
Courbouillon, c'est le démarrer à froid. On va mettre de l'eau, une protéine animale. Alors ça peut être un mélange aussi de bœuf et de veau sur des bas morceaux. L'idéal, c'est prendre un morceau de macreuse et prendre un jarret de veau. On va porter à ébullition. Et là, à l'ébullition, il va y avoir une écume qui va arriver sur la surface qu'on va retirer délicatement. Et après, on va l'aromatiser avec des épices, des légumes. Et on va porter à l'ébullition, mais une toute petite ébullition, pendant facilement 1h30, 1h45. Voilà. Et on va le laisser faire. Et là, on va avoir obligatoirement une viande qui va être soyeuse, moelleuse, et surtout, un courbouillon très limpide.
Thibaut de Saint-Maurice.
Pardon, mais du coup, qu'est-ce que ça vaut les cubes de courbouillon de que non, mais est-ce que vraiment faut éviter ou est-ce que quand même ça rappelle quelque chose ?
Alors les cubes de courbouillon, pour l'historique, ça a été inventé par Auguste Escoffier. C'est le premier cuisinier qui avait travaillé un peu avec tout ce qui était dans avec l'agroalimentaire, qui les avait accompagnés dans cette préparation. Alors honnêtement. Si à la maison vous avez rien d'autre, si vous êtes vraiment dépressif, vous les utilisez, vous pouvez pas faire autrement parce que c'est forcément assez pratique. Mais si on peut les éviter, c'est mieux parce que on sait pas tout à fait exactement ce qu'il y a dedans. Déjà, je vais vous dire la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être pas très, très agréables pour la santé et pour le corps humain. Et c'est tellement facile de prendre de l'eau, de mettre des légumes, de mettre un morceau de viande, de le faire bouillir.
Grégory Cohen.
Ouais, je peux que rejoindre Yves, évidemment, là-dessus. Le conseil, en réalité, c'est de prendre et de retourner l'étiquette. S'il y a des mots que vous comprenez pas dans l'étiquette,
ou que votre grand-mère ne connaissait pas,
si vous commencez à avoir des mots que vous ne comprenez pas sur une étiquette, n'achetez pas le produit.
Marcel Ratafia, vous espérez faire votre beurre avec ce livre.
J'espère bien.
Faire son beurre, d'où ça vient cette expression ?
En fait, le beurre est associé forcément à l'argent, à une idée de richesse, et même à une idée un peu de presque de trop de richesse, comme dans l'assiette au beurre finalement, où en fait c'est les riches qui ont le beurre et les autres ils ont la margarine ou le saindoux. Mais en fait le beurre c'était un produit qui était assez luxueux pendant très longtemps, et aussi parce que on le salait. Le fait que ce soit la crème du lait baratté avec du sel, ça faisait un produit très très luxueux. Et c'est pas le jambon beurre qui nous dira le contraire.
Yves Candebordes, que serait la gastronomie française et guillemets Odissino sans beurre?
Ah, elle serait pas.
Oh, merci d'être associé.
Elle serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Même je confirme.
Même si je pense qu'aujourd'hui le beurre a beaucoup moins d'importance qu'il y a quelques années. Surtout, on l'utilise de façon totalement différente, avec beaucoup plus de modération. Voilà. C'est vrai que de prendre une seule exemple, c'est la seule meunière cuite carrément dans du beurre dans l'excès. Alors certes, c'est bon, mais c'est lourd et c'est pas digeste. Aujourd'hui, une seule manière, on va la démarrer peut-être plus simplement à l'huile d'olive et juste à la fin y déposer voilà, une petite cuillère à café de beurre pour finir de l'arroser. Mais c'est vrai que le beurre, c'est bon, ça. Vraiment, voilà, c'est le goût de la gastronomie française. Voilà, c'est cette longueur en bouche qu'il peut apporter. Il est quand même indispensable, mais avec beaucoup plus de modération qu'il y a quelques années.
Marcel Ratafia, il y a beaucoup hein, d'expressions dans votre livre, hein, il y en a 150, j'en ai choisi quelques-unes. Donc, pour certains candidats à la primaire des Républicains, les carottes sont cuites. Oui. Ça veut dire quoi exactement et d'où ça vient ?
Alors, comme pour beaucoup d'expressions dans ce livre, j'ai eu des surprises. Comme les carottes sont cuites, je pensais que c'était juste une expression voilà, venue de la cuisine. Et en fait, voir ces carottes cuites au XVIIe siècle, ça, c'était se préparer à mourir, avoir l'air de qu'on va mourir. Donc, les carottes sont cuites, on connaît bien parce que c'était l'expression un petit peu fataliste qu'utilisait Radio Londres pour dire qu'il allait avoir des assauts, des combats. Et en fait, les carottes, j'ai aussi découvert qu'elles n'avaient pas toujours été oranges. En fait, c'est une manipulation d'un monsieur qui voulait rendre hommage au prince d'Orange, qui avait libéré le Pays-Bas, et il s'est dit, bah, tiens, elles sont blanches, on va les mettre orange. Comme ça. Et donc, quand on dit qu'elles donnent les fesses roses, je pense qu'avant, elles donnaient les fesses blanches, hein, tout simplement.
Yves Candebord, en cuisine, les carottes trop cuites ont leur utilité. Hein.
Oui, les carottes trop cuites ont une utilité assez exceptionnelle. Là, il faut rendre hommage à un monsieur qui est trop tôt disparu, c'est Bernard Loiseau, qui a inventé la cuisine à l'eau. Alors, on en a, honnêtement, toute la profession a rigolé quand Bernard avait créé ce style de cuisine. Et aujourd'hui, on adore utiliser les purées souvent de légumes pour apporter le liant. L'exemple, c'est la daube de bœuf qu'on faisait classique et qu'on liait souvent avec un féculent, soit de la maïzena, soit de la farine. Maintenant, on met pas du tout de féculent. On va être un peu dans l'excès des carottes dans la daube de bœuf. On va récupérer la sauce et les carottes. On va mixer l'ensemble et ça va donner la texture et la rondeur à la sauce avec beaucoup plus de légèreté parce que c'est lié par le végétal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit les carottes sont cuites, c'est surtout pas négatif. Bien au contraire, c'est positif parce que ça amène de la fraîcheur et de la légèreté à ces plats traditionnels.
Oui, c'est vrai qu'on a eu des grands messieurs qui ont révolutionné la cuisine. Michel Guérard, qui est toujours parmi nous et qui est un des très grands noms, et évidemment Bernard Loiseau. On a eu ce changement où on passait de quelque chose de très gras, de très mijoté, de très long, à une cuisine qui revenait à quelque chose de beaucoup plus végétal et ça transforme tout et c'est exceptionnel. Donc oui, et d'ailleurs, même si on va plus loin sur les carottes, hein, on jette rien. Quand on va faire nos carottes, quand on va peler nos carottes, on va conserver les pelures de carottes pour faire notre bouillon. On va conserver les fans, on peut faire un jus avec. Tout est bon dans la carotte, hein, qu'elle soit blanche ou orange. Hein.
Grégory Cohen a pris de la bouteille, ça veut dire qu'il a acquis de l'expérience en vieillissant. Ça vient d'où, Marcel Ratafia, cette expression « prendre de la bouteille » ?
Ça vient de la Rome antique. À l'époque, on collectionnait les amphores et pour l'anniversaire, on offrait une amphore de vin. Donc, à chaque année, sa nouvelle bouteille. Ah ouais. Et donc, prendre de la bouteille, c'est prendre toute une cave, hein, je pense, quelque part.
Alors, quand on a des casseroles au derrière, cela veut dire que l'on est mêlé à une affaire douteuse, que l'on a commis un acte malhonnête par le passé. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, évidemment, la casserole, elle chante, mais elle fait aussi un sacré tintouin, on va dire. Avoir des casseroles au cul, on comprend un peu l'expression. Mais ça vient de la politique. Puisque c'est un endroit bien connu où on cuisine pas que des blanquettes. Et en fait, il y a eu une affaire des casseroles au tout début du XXe siècle au Parlement, une sombre histoire de d'abus de pouvoir. Comme il n'y en a plus aujourd'hui.
Bien sûr.
Ah non.
Bien évidemment. Comment choisir une bonne casserole ? Tiens, c'est l'aspect serviciel de Grand Main Vous Fasse.
Alors important
comme faut qu'elle soit lourde, bien
voilà,
lourde.
Voilà, important, c'est vrai que l'importance du matériel est primordiale pour bien cuisiner. Je dirais autant casserole que poêle, il faut qu'il y ait un peu de lourdeur, voilà, faut qu'il y ait de l'épaisseur. Il faut que le métal soit suffisamment épais parce qu'il va s'imprégner de la chaleur et il va pouvoir conserver la chaleur et bien la diffuser, c'est primordial. Et après la seconde chose, c'est vraiment la prendre dans la main. Et sentir quelle est la continuité de la main. Et là, c'est plus par sécurité et d'aisance de cuisine. Quand on va tenir une casserole, il faut que notre main soit, voilà, qu'il y ait un toucher agréable et surtout qu'il y ait une bonne prise. C'est vraiment très, très important.
Et qu'est-ce que vous pensez des casseroles en revêtement anti-adhésif?
Alors, l'anti-adhésif est devenu aujourd'hui quelque chose de commun dans les cuisines autant professionnelles que ménagères. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très pratique, mais qui a toutes ces problématiques et qui est dangereux. Dès que c'est rayé, dès que c'est usé, il faut surtout arrêter. Il faut malheureusement les recycler et ne pas les utiliser parce que c'est nocif pour la santé.
Greg Cohen.
C'est Greg maintenant. On va se tutoyer bientôt. Comment ça se passe? Oui, il faut qu'elle soit bien culottée. Il faut qu'elle soit lourde. Et puis ensuite, il y a différents types de casseroles. Si on veut avoir cette fameuse réaction de Maillard où on veut que ça caramélise la viande de façon chaude, il faut pas qu'on ait un revêtement anti-adhésif parce qu'on va avoir des problèmes pour l'obtenir. Le revêtement anti-adhésif, il va nous permettre sur certaines choses. On a le petit truc du papier sulfurisé qu'on peut découper lorsqu'on a une casserole ou une poêle qui fonctionne plus très bien. Et ben, on va découper un petit papier sulfurisé, on va le mettre au fond de sa poêle et puis on va cuire dessus et ça va faire un super effet. Et puis un petit truc aussi rapidement, on sait qu'il y a maintenant plusieurs feux. Bon, le gaz de moins en moins, l'induction de plus en plus, mais on a encore le vitrocéramique. Pour savoir si notre casserole, elle est plutôt induction ou pas induction quand on veut aller l'acheter.
Un aimant.
Un petit aimant, exactement. Mmh. Et si l'aimant, colle au cul de la casserole, eh ben, c'est une expression ça, colle au cul de la casserole, je suis pas sûr. Et ben, dans ce cas-là, elle est pour l'induction.
Et c'est vrai que quand on fait ses courses, on se balade tous avec notre aimant.
Toujours. Toujours avoir un aimant sur soi.
Thibaut de Saint-Maurice, bah, c'est un vrai dur à cuire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas mener ni émouvoir. Ça vient d'où, Marcel Ratafia, cette expression, être un vrai dur à cuire?
Ça vient des mercenaires, soldats, etc., extrêmement burinés, dont la peau tannée ressemblait à un cuir. Je pense que c'est ça.
Un vieux steak, quoi.
Un vieux steakos. Mais dur à cuire, en fait, il y a plusieurs choses qui sont dures à cuire, comme la viande. En fait, une viande qui est dure à cuire, c'est ce qu'on appelle de la barbaque en argot. Et ça faisait l'objet d'un petit commerce florissant pendant longtemps, encore aujourd'hui. D'ailleurs, on peut trouver de la très mauvaise viande qu'on va appeler semelle et qui sera pour le coup dure à cuire.
Yves Condebordes, le vrai dur à cuire, c'est l'œuf, hein. Comment cuire un œuf dur à la perfection?
Alors c'est assez simple. Déjà, il faut que l'œuf soit à température ambiante. Il ne faut pas qu'il sorte du frigo. Donc c'est tout simplement faire bouillir une casserole d'eau, hein. De prendre l'œuf délicatement, voilà, le déposer dans l'eau bouillante. Alors moi personnellement, je ne le cuis que 8 minutes parce que je veux garder voilà pratiquement un peu ce moelleux de l'œuf parce que sinon je trouve qu'il est un peu trop sec et assez étouffe chrétien. Voilà. Et une fois qu'il est cuit 8 minutes, je le rafraîchis dans de l'eau froide, je l'écale et surtout je ne le remets pas au frigo. Ouais, je vais le manger ou je vais même si je ne mange pas c'est sur l'instant, mais on va le laisser tranquillement attendre, mais à température ambiante.
Et pas besoin de faire cuire l'œuf à gros bouillon, hein, c'est pas la
non,
peine.
Non, c'est pas la peine parce que étant donné que vous le faire cuire à gros bouillon, ben, il va y avoir beaucoup de mouvements, vous risquez de casser déjà la coquille, ça a pas d'intérêt.
Julien Bisson, vous aimez beaucoup cette expression numéroter ses abattis, ça vous fait penser à votre grand-père, hein, c'est ça?
Oui, parce que c'est vraiment une grande expression de feu mon grand-père et je pense que c'est la seule personne dans ma vie dont j'ai entendu utiliser véritablement l'expression et il l'utilisait très souvent. C'était une menace quand on faisait une bêtise. Ah, attention, numéro de bien, t'es abattu. Et dans mon souvenir, avant de lire votre ouvrage, c'était, il m'expliquait que ces abattis, c'était les côtes et qu'en fait, il fallait qu'on compte nos côtes. Et alors, je vous mets au défi de compter vos côtes. Et je me souviens, enfant, d'essayer de compter le nombre de côtes que j'avais.
Ça pour, occupe, ça occupe les enfants, c'est pas mal.
Oui, ben,
moi, ça occupe les enfants. Quoi.
Voilà, exactement. Et donc, en lisant votre ouvrage, j'ai découvert que les abattis, c'était beaucoup plus simple que ça, c'était les membres. Mais c'est vrai que cette expression est vraiment ancrée avec le souvenir de mon grand-père et ça m'a fait plaisir de la retrouver dans le livre.
Marcel Ratafia.
Oui, en fait, mon mec m'a dit, ça ouvre le livre et en fait, ta première citation, c'est Dodo la saumure. Mais oui. Parce qu'effectivement, c'est du pur argot. Et en fait, je connais très peu de personnes. Moi, je l'ai vu dans des films des années 50, des livres des années 40, mais ça se dit plus beaucoup. Malheureusement, ça peut revenir à la mode. Ça veut dire que on a tellement peur qu'on compte les membres qui nous restent parce que potentiellement on va pouvoir nous en enlever.
Ça veut dire se préparer à subir des représailles.
Voilà, numéro de tes abattis, c'est une alerte.
Une autre expression? Avoir des oursins dans les poches.
Oui, avoir des oursins dans les poches. J'aime beaucoup cette expression parce que pour tous ceux qui ont déjà touché des oursins, marcher sur un oursin à la plage, on voit très bien ce que ça peut faire. Et j'aime bien en effet le côté très visuel de cette expression, de l'idée d'avoir des oursins dans les poches. J'espère que vous n'en aurez pas, Ali, ce midi, et qu'on ira tous au restaurant avec vous et qu'on n'aura pas d'oursins dans les poches. Mais c'est vrai que je préfère d'avoir l'expression au goût des oursins.
Parce que c'est
vraiment, alors c'est vraiment dommage parce que l'oursin est quand même, voilà, là il est, on en parle de façon péjorative, alors qu'il fait partie des mets d'exception que j'ai envie de dire que tout le monde une fois dans sa vie doit goûter. Parce que il amène le crémeux et le iodé et la longueur de palais que peu de matières premières accrues apporte.
J'ai eu un critique culinaire qui est venu, à qui j'avais juste ouvert un oursin, et il m'a dit, il est bon mais il est un peu salé, non?
Moi bon. Je veux le nom du critique. Hein.
Bon, vous l'aurez compris, je recommande chaudement 150 drôles d'expressions de la cuisine qui ne manque pas de sel, d'Yves Candebordes et de Marcel Ratafia, et c'est publié aux éditions Le Robert. Merci en tout cas d'être venu ce matin. Il est temps de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne, jamais.
Alors Thibaut de Saint-Maurice, dans les bistrots, on ne fait pas que manger, Yves Candebord le sait bien, on discute également, et cela vous a inspiré ce matin.
Ben oui Ali, parce que ces discussions prennent parfois un tour philosophique, au point de constituer un registre à part de la philosophie, qu'on appelle précisément philosophie de comptoir. Donc Yves Candebord, notre invité ce matin, ouvre d'ailleurs son livre en partageant un peu de sa philosophie de comptoir, qui est précisément une philosophie du comptoir, rapport au nom de son restaurant, vous aurez compris, jeu sur les mots, tout à fait dans le style de ces aphorismes aussi géniaux qu'absurdes, que l'on appelle aussi des brèves de comptoir.
On voit quand j'ai bu, on voit pas quand j'ai soif. Tu trouves ça normal, toi?
Moi pas.
Un parfum, si ça pue, c'est raté.
Plante carnivore peut pas être végétarienne, toi. Je crois, quoi. Sûrement, quoi. Non, c'est sûr.
L'alcool aide à dire des conneries. Sinon, qu'est-ce que tu crois? On se tairait.
Des brèves de comptoir, donc magnifiquement servies ici, souvenez-vous, par Jean Carmet dans la mythique émission de télévision Palace. Alors, si certaines de ces brèves de comptoir sont ridicules, pathétiques ou pleines de préjugés, d'autres, au contraire, recèlent une profondeur inattendue ou expriment un paradoxe fécond ou une intuition juste. Elle semble parfois frapper au coin du bon sens, comme on dit, et ce bon sens-là participe assurément de cette philosophie de comptoir.
Alors le problème, Thibaut, c'est que cette philosophie de comptoir est souvent méprisée.
Oui, elle n'est pas vraiment considérée par la philosophie académique, parce qu'elle ne respecte pas les codes de l'analyse conceptuelle et de l'argumentation raisonnée. Mais elle n'en est pas moins philosophique que pour autant. Différence de style, certes, mais pas hiérarchie dans la pertinence. Ce que l'on appelle philosophie de comptoir est en fait une philosophie sauvage, spontanée, populaire, au sens où elle est accessible à toutes et tous, sans diplôme ou légitimité institutionnelle. Elle s'appuie sur la puissance de nos conversations ordinaires, à travers lesquelles, comme le disait le philosophe américain Stanley Cavell, nous nous efforçons de nous rendre plus intelligibles les uns aux autres. Conversations entre habitués ou entre amis d'un soir témoignent à leur manière de l'expressivité de chacun et de la réflexivité de chacun. Ce temps suspendu de la conversation spontanée et ordinaire raconte que se poser des questions, émettre des jugements, eh bien c'est une sorte de bien commun, accessible donc à toutes et tous, dès lors que on décide non pas d'être d'accord sur tout, on est rarement d'accord sur tout, mais au moins d'accepter de nous passer la parole et de nous écouter. Dès lors donc qu'il y a ce temps de conversation, à table ou au comptoir, on est bien dans une sorte de pratique philosophique du quotidien. Les citations de philosophes sont remplacées donc par des brèves de comptoir, hein, formules humoristiques ou poétiques. Les distinctions conceptuelles laissent souvent la place à des anecdotes, mais on est bien dans l'exercice d'une réflexivité partagée et qui ne se propose rien d'autre que de refaire. Refaire le match, refaire les élections, refaire le monde. Ces conversations philosophiques de bistrot, elles témoignent de notre capacité à mettre en nous et dans nos vies tout un ensemble de paroles, de points de vue, de jugements qui vont nous partager, nous faire rencontrer les uns les autres. Alors pas étonnant que dans un juste retour de balancier, la philosophie spontanée du comptoir laisse parfois sa place à des cafés philo, plus ou moins réguliers ou plus ou moins institutionnalisés, mais qui expriment d'une autre manière que la philosophie, bah, c'est pas qu'une discipline académique pour vieux barbus échevelés, mais aussi, et tous les jours, une véritable culture populaire qui se pratique aussi avec un verre à la main.
Yves Candebord.
Oui, moi je suis complètement d'accord avec ça, et c'est vrai que c'est des moments, voilà, assez jouissifs, parce que moi je vois régulièrement, je vais dans un petit bistrot du premier arrondissement qui s'appelle l'Express Bar, et je me mets au coin boire mon petit café, mais ça me fait rire, parce que voilà, j'ai le droit à une philosophie de comptoir, et qui a quand même toujours du fond, même qui sont, on est souvent dans l'absurde, mais c'est tellement, tellement beau, c'est tellement un moment que je ne partagerai avec personne d'autre au monde, que je trouve que c'est quelque chose de très important pour tout le monde.
Julien Bisson.
Oui, je ne sais pas si on y raconte forcément des salades, mais ça me rappelle la citation de Balzac qui disait que le café, c'est le parlement du peuple.
Et moi, j'adore philosopher aux ondes, hein, au pied de la maison de la radio, avec James et Viviane, qui sont absolument formidables, avec qui on a des conversations très drôles et souvent très, très profondes. Vous pouvez podcaster la chronique de Thibaut de Saint-Maurice sur l'appli France Inter. Après les nourritures spirituelles, les nourritures bien terrestres de Grégory Cohen. Greg Cohen, ce matin, vous nous proposez un pain de gêne à la clémentine que toute l'équipe du vendredi a déjà englouti, terminé. Il ne reste plus une miette. Hein.
Validé.
Validé.
Oh, bah alors super, parfait. Alors pour ce pain de gêne, il nous faudra 200 g de pâte d'amande, 250 g de beurre pommade. Alors le beurre pommade, vous savez, c'est quand on peut mettre son doigt dedans et on le traverse facilement. Il a une texture de pommade. 300 g de sucre semoule, 80 g de farine, 6 œufs à température. 5 zestes de clémentine et le jus de ces 5 clémentines. On va démarrer par blanchir pendant 10 minutes les zestes de clémentine dans une casserole départ à l'eau froide. Ensuite, on va travailler la pâte d'amande. Alors, pour faire plaisir à Yves, à la main, pour la détendre. Et puis, on va incorporer ensuite le reste des ingrédients. On verse le tout dans une plaque recouverte de papier sulfurisé. On cuit 15 à 20 minutes à 160 degrés. Je rajoute en fin de cuisson un peu de cassonade pour caraméliser sous le grill. Il y a du craquant, du fondant, un goût subtil. Ce pain de gêne est surprenant, une espèce de mélange de texture entre la génoise et le flan. On valide ou pas ?
On valide.
Ben
voilà. Question de Candide, blanchir, ça veut dire quoi ?
Blanchir, en fait, c'est enlever l'amertume des zestes d'orange. En règle générale, on peut même blanchir d'autres choses. C'est pour assouplir. Après, une fois qu'on a blanchi, par exemple, un poireau, on va pouvoir le mettre immédiatement dans de l'eau froide pour stopper la cuisson. On fait ça avec les herbes, par exemple. Pardon, on blanchit les herbes. On va blanchir le persil, le basilic. Le basilic à part, parce que le basilic va rendre l'eau noire. Et on met ça immédiatement après dans de l'eau glacée pour stopper la cuisson.
Et vous pouvez retrouver la recette de Grégory Cohen sur le site de France Inter et sur votre compte Instagram, Grégory Cohen off, off avec deux F. Dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette. Sexe. En attendant de passer à la casserole, on écoute Team Up d'alcool et de paysage.
Plus les années défilent, moins je comprends les choses, moins je trouve les réponses aux questions qui se posent. Le temps m'a alourdi, et puis fane les roses, des pensées qu'on croit sûres, et d'autres s'y opposent. Alors je viens poser sur la tienne ma bouche, c'est la seule vérité, nos lèvres qui se touchent. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre, les fleurs se fanent sur le rivage, mais pour mieux me dissoudre d'alcool et de paysages, je distille le jour, j'alambique dévêtu par la foudre. Surtout ne pas mourir sans la fièvre du jour, les coucher sur la mer à ravir la mort, nous moquer bien des limbes et des longs puits sans fond, car les dieux et l'Olympe n'auront jamais raison. Ils nous envient l'effroi de connaître le temps, de n'avoir qu'une seule fois pour nous rendre vivants. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre, les fleurs se fanent sur le rivage, mais pour mieux me dissoudre d'alcool et de paysages, je distille le jour, j'alambique les nuages dévêtus par la foudre. Je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre, les fleurs se fanent sur le rivage,
mais pour mieux me dissoudre d'alcool et de paysage, je distille le jour, j'alambique les nuages, dévêtus par la foudre, je ne fuis plus l'orage, j'ai l'envie d'en découdre, les fleurs se fanent sur le rivage, mais pour mieux me dissoudre d'alcool et de paysage, je distille le jour, j'alambique les nuages, dévêtus par la foudre.
Teamed up d'alcool et de paysage.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obsédé par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Et c'est l'heure de la chronique sexe de Maya Mazorette.
Les mots de la cuisine. Quel beau sujet auquel je comprends rien. À ma connaissance, Grégory Cohen tient la chronique en sanskrit de Grand Bien Vous Fasse, en alternance bien sûr avec sa chronique de géométrie quantique, on est bien d'accord? Non, vraiment, les seuls mots de la cuisine que je comprends, ce sont ceux qui s'appliquent au sexe. Or, dans le livre de nos invités, il y a une expression qui m'a rappelé des souvenirs. Quand j'avais 15 ans, avec une copine, on discutait de notre future première fois, être amoureuse ou pas, attendre ou pas. À l'époque, cette copine avait conclu que de toute manière, il faudrait bien passer à la casserole. Il y a 1 million de trucs qui vont pas dans cette expression du genre « qui tient la casserole ? Est-ce que le feu est doux ? C'est quoi le nom du plat ?» Mais je crois qu'à l'époque, j'étais surtout choquée par le fait qu'il faille passer à la casserole. À 15 ans, ma copine s'était pliée à l'idée d'une sexualité obligatoire. C'était dans les années 90, en plein repli du féminisme. Si des filles de 15 ans nous écoutent, et des garçons aussi d'ailleurs, bon sang de bois, non ! Vous ne devez pas passer à la casserole, c'est votre sexualité. Vous en faites ce que vous voulez, sans pression, sauf si vous cuisinez la cocotte minute, évidemment.
En plus, Maya, ça ne doit pas être très agréable de passer à la casserole.
Ouais, pour commencer, ça brûle. Mais quelle splendide idée que de comparer le premier rapport à un baptême du feu qui, potentiellement, va faire de nous une grande brûlée. Pourquoi pas se faire écarteler ou lapider à coups de boule de pétanque tant qu'on y est ? Non mais... En plus, si on passe à la casserole, c'est qu'on est réduite à un simple ingrédient. Il y a peut-être pas mal de femmes à qui ça doit évoquer les routines beauté. Avant d'être consommée, on se rince à l'eau chaude, on se prépare, on s'émince, avant de littéralement se faire cuire les fesses pour devenir enfin comestible. Non mais quelle déprime. Et là où vraiment cette expression de passer à la casserole revient à se tirer collectivement une balle dans le pied, c'est qu'on ne passe à la casserole qu'une fois. Ensuite, par définition, ce sera du réchauffé. Cette conception du premier rapport en fait le seul qui compte vraiment. Du coup, mine de rien, on crée une fascination pour les jeunes filles, pour les vierges, qui me semble pas tout à fait cachère en 2021. Et attendez, c'est pas fini. Je continue de décortiquer la métaphore. La casserole, c'est pour le plat de résistance. Donc tout le reste de la sexualité devient accessoire. Un amuse-bouche, un digestif. C'est exactement avec ce genre de préjugés qu'on appauvrit son répertoire sexuel et qu'on se retrouve 20 ans, 40 ans plus tard, piégé dans la routine qui assomme tant de couples. On réchauffe indéfiniment le même rapport micro-ondable. Non seulement c'est pas marrant, mais c'est même plus très bon.
Alors on fait quoi, Maya ? On supprime cette expression ?
Ah non, surtout pas. Si notre sexualité est pauvre, c'est pas la peine de tirer sur l'ambulance en lui enlevant encore des mots. Non, on censure rien, on rajoute. On dit aux filles et aux garçons de 15 ans que le sexe n'est pas une casserole, mais un buffet servi exclusivement à volonté. On a le droit de ne pas avoir faim, de s'arrêter à l'apéro, de passer direct au dessert, d'être végane, de mettre le fromage avant les bœufs, de se resservir, de mettre les doigts et même de parler la bouche pleine. Si j'ai encore 2 secondes, puisque je parle de rajouter des mots, je vous en apprends 2 nouveaux pour votre prochain trivial poursuite. Le fétichisme consistant à manger ses partenaires s'appelle la voraréphilie. Le fétichisme consistant à être sexuellement excité par la nourriture est la cytophilie. Le fétichisme des casseroles, lui, n'existe pas.
Merci beaucoup Maya Mazorette. Une chronique à podcaster sur l'appli et le site de France Inter comme l'émission d'ailleurs. Merci à toutes et tous. Merci Yves Candebord et merci. Marcel Ratafia. Vous pouvez donc réécouter cette émission également sur l'appli France Inter. Lundi, on s'intéresse aux liens entre médecine, bien-être et paranormal avec le mensuel « Ça m'intéresse ».